Chapitre 3. Le service lui fournit une Camaro d'occasion. Du moins était-ce l'impression qu'elle donnait, car sous le capot cabossé et repeint en dépit du bon sens, se dissimulait un moteur gonflé. Toute la mécanique était de première qualité et n'aurait pas déparé une Formule 1. On lui remit également une valise voyante remplie de vêtements texans. Veste de cuir à franges, courte botte piouille de Rodeo Girl, polo taille et autres signes extérieurs destinés à la transformer en provincial bon teint. Peggy se contenta d'un jean et d'un t-shirt orné de l'inscription « Born to Cry ». « Étudie la photo d'Ornella », lui ordonna Evgeny, « et essaie d'obtenir des nanoparticules qu'elle remodèle ton visage de manière à créer une ressemblance évidente. Tu dois passer pour sa sœur, ne l'oublie pas. »
Peggy obéit, même si c'était là une expérience pénible.
Il n'est jamais agréable d'avoir l'impression que des milliers de fourmis rampent sous la peau de votre visage pour le dévorer de l'intérieur. Elle se concentra néanmoins sur le cliché, tout en suivant à l'aide d'un miroir le travail souterrain des nano-éléments grouillant dans son organisme. Quand elle jugea la ressemblance flagrante, elle leur commanda d'arrêter. Elle avait la figure brûlante et rouge, comme après un coup de soleil. Sa bouche et ses paupières lui faisaient mal. Cette gêne s'atténuerait au bout d'une heure. Elle était en quelque sorte devenue la sœur jumelle d'Ornella Jones avec 10 ans de plus. Elle se glissa derrière le volant et prit la direction de Mulholland Drive, l'interminable suite de lacets courant à la crête des collines jusqu'à la vallée de San Fernando. Piloter la Camorra trafiquée s'avéra un plaisir. Il lui fallut 2 bonnes heures pour dénicher la maison sur pilotis, bâtie au bord d'un arroyo, quelque part en deçà de la jonction de Mulholland et de Laurel Pass. Juchée sur ses longs piliers métalliques, elle faisait penser au fameux tripode de la guerre des mondes. Elle semblait horriblement fragile, condamnée à être jetée à bas au prochain séisme. On y accédait par un escalier à vis. La disparition d'Ornella Jones n'ayant pas été considérée comme un crime, aucun scellé n'interdisait l'accès des lieux. Los Angeles comptait des milliers d'habitants, et des centaines d'entre eux y disparaissaient chaque jour. La police n'allait pas s'alarmer pour si peu. Quant au FBI, il ne daignerait se mettre en branle qu'une fois la tête de la victime retrouvée au fond d'une poubelle, et à condition que la trouvaille ait lieu dans un autre état. Peggy gravit lentement l'escalier branlant. Dès qu'elle fut à mi-hauteur, le Santana se leva, l'aspergeant de poussière rouge. La maison oscillait et grinçait dans le vent, tel un arbre pris dans la tempête. Au sommet des marches, une véranda entourait la maison sur ses 4 côtés. Une grande baie vitrée poussiéreuse ouvrait sur le panorama des collines. Peggy cueillit au fond de sa besace le trousseau de fausses clés fourni par la Technical Division. 2 minutes plus tard, la serrure rendait les armes. Elle poussa la porte et franchit le seuil. Accueillie par une odeur de renfermé, elle fit rapidement le tour des lieux. Elle estima que le désordre ambiant ne résultait pas d'une fouille sauvage, mais du caractère bordélique de l'occupante. On avait meublé le salon dans le style Santa Fe. Fauteuil ethnique en bois non écorcé, couverture indienne au dessin géométrique. Le tout en assez mauvais état. Des diodes rouges clignotaient au ras du plafond, des webcams. Il y en avait partout, même dans les toilettes. Dans la salle de bain, 3 d'entre elles permettaient d'observer la baignoire sous différents angles. Certaines étaient équipées de zoom. En réalité, la maison n'était qu'un studio de prise de vue. Tout avait été aménagé pour permettre aux voyeurs de suivre les évolutions d'Ornella dans sa vie quotidienne. Peggy connaissait le principe. Il fallait donner aux clients l'impression qu'on n'avait pas conscience de leur présence. Fortifier en eux l'illusion qu'ils étaient en train d'épier une innocente voisine par le trou de la serrure. Et surtout, surtout, ne jamais lever les yeux vers la caméra. Il convenait également de ne pas adopter de pose aguicheuse ou peu naturelle. Éviter la lingerie trop sexy, s'exhiber en culotte de coton à l'élastique distendu. Bref, s'évertuer à donner une impression de réelle intimité. Une fois cette atmosphère de banalité installée, il fallait savoir doser ses apparitions dénudées avec science,
alternait frustration et éblouissement. Ce n'était pas aussi facile qu'on l'imaginait de prime abord. En règle générale, le voyeur, contrairement à une idée trop répandue, ne veut pas trop en voir. Il préfère surprendre des morceaux choisis, capturer au vol la vision fugitive d'un pubis dans l'entrebâillement d'un rideau de douche, s'exciter à l'audition du bruit de l'urine s'écoulant dans la cuvette des toilettes. Il ne faut jamais trop lui en donner. Il serait déçu. En réalité, il aime attendre en se disant qu'un jour, peut-être, son interminable affût sera récompensé. Peggy se mit en quête de l'ordinateur. Si les webcams clignotaient, cela signifiait que l'appartement était en ligne. Pourquoi Ornella ne s'était-elle pas déconnectée avant de quitter les lieux? Ne lui en avait-on pas laissé le temps? Ou bien elle a décidé de jouer la carte de la frustration, songea-t-elle. Dans ce cas, c'est qu'elle estimait que son absence serait de courte durée. Elle trouva l'ordinateur dans la pièce qui faisait office de bureau. Un sanctuaire, lui, dépourvu de caméras espionnes. C'est ici qu'elle s'isolait pour passer ses coups de fil, supposa Peggy. Une enclave d'intimité au milieu du plateau de prise de vue. Elle s'installa devant l'appareil. Dès qu'elle effleura le clavier, l'écran d'attente s'évapora. La mention « Vous avez 6678 messages » apparut en travers du moniteur. Ils émanaient tous de clients d'abord impatients, puis mécontents, et pour finir furieux. Si les premiers mails exprimaient le souhait que les vacances d'Ornella ne durent pas trop longtemps, les derniers se résumaient à une déclinaison de termes orduriers. Rares étaient ceux qui s'inquiétaient d'un éventuel accident ou d'un problème familial retenant Ornella Jones loin des caméras. Les derniers mails remontaient à 8 mois. Après cette date, les connexions étaient devenues sporadiques pour cesser tout à fait. Peggy explora le contenu des fichiers. Rien que de très banal. De la comptabilité, du courrier commercial. Aucune lettre personnelle. Ornella Jones avait mené une vie solitaire. Peggy parcourut du regard les étagères qui l'encerclaient. Des CD, des DVD, comédies musicales, karaoké, beaucoup de films sentimentaux. Des cassettes d'aérobic, de stretching. Quelques romans d'amour perdus au milieu de manuels consacrés aux régimes alimentaires les plus divers. Les photos encadrées montraient Ornella entourée de sa famille, dans le jardin d'un modeste bungalow sur fond de sierra poussiéreuse. Pas de petite amie. Sur le canapé, un vieux poney en pluche, borgne, usé jusqu'à la trame, et une poupée dépenaillée représentant une rodeo girl. Peggy poussa un soupir de déception et ouvrit un à un les tiroirs et placards du bureau. Il débordait de revues glamour et de tablettes de chocolat ramollies. Elle finit par dénicher un gros cahier, dans lequel on avait collé des photographies découpées dans divers magazines masculins. Elle représentait des filles en tenue légère, dans des poses franchement provocantes. Au-dessous des clichés, Ornella avait écrit d'une grosse écriture enfantine « Le genre de truc à éviter ». Peggy comprit que le cahier contenait les réflexions de la jeune fille sur le métier qu'elle s'apprêtait à exercer. Sur les pages qui suivaient, elle avait laborieusement dessiné une espèce de storyboard décomposant les phases du spectacle qu'elle offrirait aux voyageurs connectés sur son site. La journée type de la web girl s'y trouvait détaillée par le menu, depuis le brossage des dents matinal jusqu'au coucher. « Ne pas se promener en string toute la journée », avait-elle écrit sous les cases. La nuit, laisser une veilleuse allumée, m'agiter comme si je rêvais et repousser la couette pour laisser voir un morceau de mon anatomie. Pas trop. Quand je mets mon soutien-gorge, tourner le dos aux caméras 2 fois sur 3. Convaincre Jimmy de venir à la maison 1 fois par semaine après le cours de danse. S'enfermer dans la chambre, toutes les lumières éteintes et faire semblant de baiser. Monter le son des micros. Ces réflexions occupaient 10 feuillets. Peggy avait l'impression de déchiffrer les notes gribouillées par un metteur en scène dans la marge d'un scénario. Elle abandonna le cahier. 1 quart d'heure plus tard, elle mit la main sur une boîte de chaussures remplie de photos. Ornella à son cours de danse. Le nom des protagonistes figurait au dos de chaque cliché. Le fameux Jimmy s'y trouvait. Il était manifestement homosexuel. Tout cela était certes un peu triste, mais dépourvu d'intérêt pour son enquête. Elle désactiva les webcams et éteignit l'ordinateur. Quittant le sanctuaire, elle passa dans la cuisine. Les placards alternaient nourriture basse calorie et tablettes de chocolat. Le réfrigérateur contenait des laitages périmés depuis un an, des légumes momifiés et plusieurs bouteilles de Perrier. « Elle ne l'a pas vidé avant de partir, » constata Peggy. « Cela peut signifier deux choses. Soit elle comptait revenir sous peu, soit elle savait qu'elle allait devenir riche. Et elle avait décidé de tourner la page. Elle se fichait complètement de cette baraque. Peut-être même n'envisageait-elle pas d'y remettre les pieds. Le soleil entrant par la baie vitrée installait une chaleur insupportable dans le salon. Peggy s'empara d'une bouteille d'eau minérale et tenta de mettre le climatisateur en marche. La machine, au filtre encrassé par la poussière rouge, refusa de fonctionner. Agacée, la jeune femme fit coulisser le panneau mobile du vitrage et sortit sur la véranda. Les grains de poussière charriés par le vent giflèrent douloureusement, ses joues enflammées par le processus interne de remodelage. On n'était pas loin de Laurel Canyon, au lieu de la culture hippie à l'époque des Roaring Sixties. Ça et là subsistaient quelques vieilles maisons de bois bâties avant la crise de 1929. Un lieu chargé d'histoire. Un coyote solitaire errait entre les touffes d'épineux. Peggy but au goulot en essayant de faire le point. Ornella Jones avait été une fille souffrant de problèmes de poids. Elle avait mené une vie solitaire, sans amant ni fiancé. Contrairement à ce que pensaient les hommes, c'était assez fréquent. Était-ce pour meubler ce vide qu'elle avait décidé de créer ce site « Trou de serrure » ou bien parce qu'elle avait des ennuis financiers? Une copine de bar lui en avait peut-être soufflé l'idée. Beaucoup d'étudiantes jouaient les web girls pour s'offrir des fringues, une voiture, des vacances. Le matériel était à la portée des bourses les plus modestes. Le reste était affaire d'imagination et d'astuce. À travers le vent de poussière, Peggy distingua les contours d'une maison de style bonanza à quelques centaines de mètres. Elle se rappela qu'Ornella avait eu une voisine. Sa vision, affinée par la magie des nanoparticules, lui permit de distinguer une ombre embusquée derrière les rideaux. Un éclat lumineux l'avertit qu'on l'observait au moyen de puissantes jumelles militaires. Elle s'efforça de prendre l'air accablé, fit le tour de la véranda, puis dévala l'escalier pour sauter dans sa voiture. Sans hésiter, elle roula vers la maison voisine. N'était-elle pas la sœur d'Ornella? Alors qu'elle se garait devant l'entrée du ranch, une femme vint à sa rencontre, enveloppée dans un cache-poussière de western. Une masse de cheveux orange entourait un visage si souvent lifté qu'il évoquait un masque de latex. L'ensemble était si incongru qu'on n'arrivait pas à déterminer si l'on se trouvait en face d'un être humain ou d'un cyborg oublié par des extraterrestres au cours d'un pique-nique dans les collines. « Bonjour, » dit la créature. « Je suis Michaela Ken. Je présume que vous êtes la sœur de cette pauvre Ornella. Vous lui ressemblez tellement. Un instant, en vous observant, j'ai cru qu'elle était de retour. « Bonjour, » fit Peggy. « Je suis Joyce, son aînée. Je ne sais pas si elle vous a parlé de moi. Nous n'étions pas en très bons termes. Ma famille n'appréciait guère ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. » Michaela hocha la tête. Elle surjouait chacune de ses mimiques comme les stars de la télé dans les années 60. Peggy avait la sensation d'assister à une rediffusion de Ma sorcière bien-aimée. Elle portait au poignet droit une bulova en or massif. « Vous n'avez toujours pas de nouvelles, n'est-ce pas ?» s'enquit l'ex-actrice. « Non, » fit Peggy, « la police a classé l'affaire, mais je sais que vous avez vu des choses. » Michaela se raidit. Un instant, elle parut sur le point de courir se barricader chez elle, mais la perspective d'un long bavardage fut le plus fort. En poignant Peggy par le bras, elle la poussa vers un bosquet, au bout d'un chemin de terre. « Allons là-bas, » fit-elle. « Je préfère ne pas parler chez moi. On ne sait jamais. Les micros, tout ça. La NSA nous écoute. Vous savez, ils espionnent les citoyens les plus ordinaires dans l'espoir de localiser des terroristes.
C'est pourquoi je n'ai pas de téléphone portable. »
Peggy se laissa entraîner. Le bosquet dissimulait l'entrée d'une mine désaffectée. Un wagonnet recouvert de peinture dorée trônait à l'entrée. On l'avait modifié de manière à en faire un bar. Sur les parois du tunnel s'alignaient des dizaines de photographies représentant Michaela Ken dans les grands rôles de sa jeunesse. « C'est ici que je donnais mes fêtes, expliqua-t-elle. J'avais fait aménager certaines galeries en chambre à coucher. C'était la bonne époque. Tout le monde était dingue. On ne pensait plus qu'à baiser et à se défoncer. Il y en a eu des partouzes. Les fantômes des anciens mineurs pris sous les éboulements ont dû se régaler. »
Elle virevoltait, désignant tour à tour les affiches encadrées. Peggy identifia les titres de plusieurs séries comiques qu'elle avait suivies dans son enfance.
Elle estima que Michaela Ken devait frôler les 77 ans. Un canapé de cuir rouge, portant la griffe d'un célèbre designer, voisinait avec des pioches et des casques rouillés. Mais déjà, la comédienne avait rempli à ras-bord de verres de vodka. « Tenez, dit-elle, asseyons-nous pour causer. Ici, nous ne risquons rien. C'est une ancienne mine de pyrite, l'or des fous, comme on disait jadis. Le type qui l'exploitait s'est cru riche en découvrant toutes ces pépites qui scintillaient dans le noir. Quand on lui a révélé la vérité, il s'est jeté dans le puits qui s'ouvre au fond de la galerie. Voilà pourquoi la mine a la réputation d'être hantée. Mais ça ne me fait pas peur. Je suis médium, vous savez. J'ai toujours entretenu de bons rapports avec les esprits. » Peggy cherchait un moyen de la ramener au sujet qui l'intéressait sans la froisser. Mais Michaela se remit d'elle-même sur les rails. « Je voyais Ornella de temps à autre, » dit-elle en adoptant soudain une expression exagérément grave. C'était une solitaire, pas de petite amie, rien. Elle ne fréquentait qu'un danseur homosexuel, Jimmy, un type de son cours de danse qui lui servait de confident. Un garçon inoffensif, drag queen à 16 heures. En vérité, Ornella se croyait laide. Trop grosse, trop grande. Elle disait qu'elle se faisait l'effet d'une jument ou d'une vache laitière. Je crois que c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans cette histoire de site érotique. Par défi, pour se prouver qu'elle pouvait exciter les hommes, être attirante.
Je pense que c'est Jimmy, le danseur, qui l'a branchée là-dessus. Mais n'allez pas croire qu'elle jouait les putains. Elle vivait comme une nonne. C'était effrayant. Je lui disais souvent, à ton âge, ce n'est pas sain, ma petite. Il faut tirer un coup de temps en temps, sinon ta chatte va rétrécir.
Peggy comprit qu'elle avait intérêt à prendre les rênes de la conversation si elle ne voulait pas être encore là à la nuit tombée. « Vous avez dit au flic que vous l'aviez vu en compagnie d'hommes étranges, » murmura-t-elle. Michaela se tut, ses mains se crispèrent. Pour la première fois depuis le début de l'entrevue, elle donna l'impression d'éprouver enfin un sentiment réel, la peur. « Oui, oui, » haleta-t-elle. « Je ne suis guère impressionnable, vous savez. Mais ces types m'ont foutu la pétoche. On aurait dit qu'ils n'étaient pas de ce monde. Leur corps, leur visage, tout était étrange chez eux. Vous avez parlé de géants ? Oui, sans exagérer. J'estime que le plus grand mesurait bien 2,60 m. Un vrai phénomène de foire. Mais il ne présentait pas les déformations habituelles des vrais géants. Vous savez... l'acromégalie, tous ces trucs. J'ai vécu dans l'industrie du spectacle. Alors, vous pensez bien que j'ai fréquenté les frics, les monstres qu'on exhibe dans les cirques. Je sais de quoi je parle. Mais ces types-là ne leur ressemblaient pas. Ils étaient comme étirés en longueur. Mais pas menaçants pour un sou. Plutôt malades, voûtés. On les entendait haleter de loin. Ils toussaient, traînaient des pieds. Ils se ressemblaient ? Oui, de longues, longues figures très pâles, des têtes de cierge, comme un masque de cire qui aurait fondu, et tous habillés de la même façon, des croque-morts, costumes noirs, chapeaux longs, manteaux parapluies, voûtés, presque bossus. On aurait cru qu'ils portaient un éléphant invisible sur les épaules, et ils venaient spécialement pour rencontrer Ornella. Oui, à 3 reprises. Ils garaient leur fourgon mortuaire au bas de l'escalier et montaient à la queue leu-leu, très, très, très lentement.
en s'arrêtant fréquemment pour reprendre leur respiration. Une fois l'un d'eux s'est trouvé mal, il a dû s'asseoir. Avez-vous la moindre idée de ce que ma sœur faisait avec eux ? Mikaela parut gênée. Autant vous avouer la vérité, ma petite, souffla-t-elle. Je ne suis pas une sainte et je n'ai jamais su résister à la curiosité. Dès que ces corbeaux de malheur se pointaient chez Ornella, je courais prendre mes jumelles et j'observais ce qui se passait à travers la baie vitrée. C'était également pour la protéger, vous savez. Les hommes, on sait ce que ça a dans la tête. Et alors ? Alors, rien. Ils s'asseyaient autour de la table du salon pour discuter. Interminablement. La dernière fois que je les ai vus, ils lui ont remis un paquet. Quand elle l'a ouvert, elle en a sorti une espèce d'énorme téléphone portable. Un truc comme les militaires en utilisent, vous voyez ? Peggy hocha la tête. Elle apprenait enfin quelque chose de nouveau. L'ex-comédienne faisait allusion à un téléphone satellitaire de grande portée, capable d'émettre du pôle Nord au pôle Sud sans l'ombre d'un parasite. « Avez-vous tenté d'évoquer la chose avec elle ? » demanda-t-elle. « Oui, avoua Mikaela. J'étais inquiète. Ces hommes émettaient de mauvaises vibrations. Ils empestaient la mort. Leur aura était rouge sang, striée de vénules violettes. À chaque fois que je les voyais, leur état semblait empirer. J'ai eu peur qu'ils n'entraînent Ornella dans une histoire effrayante. Il y a tellement de cinglés en Californie. Une secte démoniaque, des snuff movies, quelque chose de ce genre. Elle était assez naïve en réalité. Je crois que toute sa sexualité, elle la mettait dans les mises en scène de son site. Ça suffisait à la combler. Elle ne baisait jamais. Elle provoquait son passé à l'acte. Que vous a-t-elle répondu ? Que je me trompais, qu'il n'y avait rien de glauque dans tout ça. Qu'elle était sur le point de conclure une affaire formidable. Une occasion inespérée. Elle était excitée, presque radieuse. Elle faisait des projets. Des projets au-dessus de ses moyens financiers, comme si elle allait empocher une fortune. C'est ça qui m'a effrayée. Je l'ai suppliée de se méfier des belles promesses. Mais elle m'a répondu qu'il ne s'agissait pas de banales promesses, que ses commanditaires avaient prouvé leur sérieux. Le premier demi-million de dollars, songea Peggy. Le compte en Suisse, la moitié de la somme promise. Ses commanditaires, répéta-t-elle. Elle envisageait donc de monter une affaire ? Mikaela haussa les épaules et contempla son verre vide. « J'en ai eu l'impression, soupira-t-elle. Mais une affaire de quoi ? Elle ne m'en a rien dit. Après, elle a commencé à passer un tas d'examens médicaux. Des examens médicaux ? Oui, chez certains spécialistes que lui avaient indiqué les hommes en noir. Des bilans de santé très poussés, scanners, tomographies, tout le toutim. On aurait dit qu'elle allait être engagée à Cap Canaveral. Ça n'avait aucun sens. Souvent, elle revenait épuisée de ce séjour en clinique. Visiblement, ça n'avait rien eu d'une partie de plaisir. Elle était blême, les yeux cernés. Une fois, elle a laissé échapper un truc. Elle était à bout de nerfs, elle a dit « J'ai horreur de ces séjours en caisson. » Quand je lui ai demandé de s'expliquer, elle a noyé le poisson. Comme si elle se rendait compte qu'elle venait de faire une gaffe. Elle avait arrêté de travailler comme barmaid. Elle restait chez elle toute la journée. Elle avalait beaucoup de gélules. Des trucs qu'elle sortait de bocaux sans étiquette. Elle disait « ça fait partie de la préparation ». Elle m'avait supplié de ne plus lui poser de questions. Elle prétendait avoir signé un accord de confidentialité. Ça semblait très sérieux. Je voyais bien que je la mettais mal à l'aise en insistant. Mais je n'étais pas convaincue, je redoutais une arnaque. Un soir, que nous avions vidé quelques verres, elle s'est plantée au milieu du salon, chez elle, les poings sur les hanches, et elle a lancé « Tout ça, c'est fini. Je n'emporterai rien. Je ne reviendrai même pas. » Elle était radieuse. Elle parlait de s'installer en Suisse, au bord d'un lac qu'ils ont là-bas, à Genève. Une espèce de mare, en fait. J'y suis allée une fois. On ne peut même pas y pêcher les spadons, c'est trop froid. « Et elle est partie ?»« Oui, sans me dire au revoir, rien. » Je m'en suis aperçue au bout de quelques jours. J'ai expliqué tout ça aux flics, ils m'ont prise pour une vieille folle, des jeunes crétins.
Ils ne connaissaient même pas les séries dans lesquelles j'ai tourné. Toute leur culture tenait en un seul mot, Star Wars. Peggy devina qu'elle ne tirerait plus rien de son interlocutrice. Elle bavarda quelques minutes encore, puis se leva pour prendre congé. Le Santana s'était calmé, la nuit tombait. Au moment où elle sortait de la mine, Michaela se cramponna à son bras. « Soyez prudente, mon petit, gémit-elle. Votre aura est étrange. Elle ne cesse de changer de couleur, comme s'il y avait plusieurs personnes en vous. Tantôt vous paraissez en bonne santé, tantôt vous avez l'air très malade, gravement diminué. Je ne comprends pas. » Troublée, Peggy la remercia et se dépêcha de regagner la Camaro. Alors qu'elle grimpait dans la voiture, elle surprit le regard du coyote qu'elle avait remarqué un moment plus tôt, alors qu'elle contemplait le paysage depuis la véranda. Tapis au creux des génévriers, l'animal la fixait avec une insistance étrange. Peggy haussa les épaules et démarra. Les propos de Michaela l'avaient déstabilisée et elle était presque persuadée que cette femme possédait un don de double vue. Elle chassa cette idée saugrenue d'un haussement d'épaules. « Je suis fatiguée, décida-t-elle. Rien de plus. » Elle savait par ailleurs que l'implantation des nano-éléments pouvait engendrer de brèves poussées hallucinatoires, des idées bizarres, voire un début de paranoïa. Néanmoins, elle prit le temps de verrouiller la porte derrière elle et tira les rideaux devant la baie vitrée pour ne plus voir l'océan de ténèbres encerclant la maison. Elle aurait eu besoin d'un verre, mais décida de s'en abstenir. Elle se rendit dans la cuisine et fit réchauffer un plat basse calorie dans le micro-ondes. Elle finit la bouteille de Perrier en avalant 3 analgésiques, car son visage lui faisait mal. Elle mangea avec lenteur, récapitulant les informations récoltées au cours de l'après-midi. À première vue, on était tenté de considérer Michaela Ken comme une affabulatrice au cerveau détraqué. Pourtant, Peggy avait la certitude que la vieille actrice disait la vérité. Elle n'avait rien inventé. Les géants vêtus de noir existaient bel et bien. Des géants pathétiques, souffreteux, vêtus comme des croque-morts du XIXe siècle. Elle sentit qu'elle ne pourrait pas fermer l'œil. Aussi décida-t-elle de poursuivre sa perquisition de manière plus approfondie. D'abord, elle examina les murs, les sondant jusque dans leurs moindres recoins, sans rien trouver. Ne subsistait que le plancher. À la place d'Ornella, estima-t-elle, si j'avais dû cacher quelque chose, j'aurais choisi le sanctuaire, le seul endroit sans caméra de toute la maison. Munie d'un marteau et d'un tournevis, elle s'agenouilla et entreprit de sonder chaque lame du parquet. Elle déplaça plusieurs meubles. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait sous une commode remplie de lingerie. Une latte disjointe qu'elle n'eut aucun mal à soulever avec la pointe du tournevis. Sous la planche, il y avait un espace profond d'une vingtaine de centimètres et dans cette cavité, 2 objets. Le premier consistait en un journal intime fermé par un minuscule cadenas doré. Le second ressemblait à un téléphone satellite à usage militaire. Assez volumineux, il ne comportait aucune marque ni inscription, pas même un numéro. Une seule et unique touche tenait lieu de clavier. La forme en était bizarre, ne rappelant en rien ce qu'on avait l'habitude de voir chez les marchands de téléphones mobiles. On dirait un gros scarabée, songea Peggy avec un léger dégoût. Un insecte géant qui va sortir ses pattes d'une seconde à l'autre. Elle dut faire un effort pour se décider à le toucher. Elle ne put identifier la matière dans laquelle il était fabriqué. Cela ne ressemblait ni au plastique ni au métal. C'était un peu mou. Comme la carapace d'un cancrelat, se dit la jeune femme en déposant sa trouvaille sur la table. À n'en pas douter, c'était l'appareil que les géants avaient confié à Ornella. Un seul bouton d'appel, donc un unique correspondant. Elle reporta son attention sur le journal intime dont elle brisa le petit cadenas. Elle identifia l'écriture d'Ornella au premier regard. Dès qu'elle eut déchiffré la première ligne, elle retint sa respiration. « J'écris ce récit pour essayer d'ordonner mes idées, lut-elle. Je ne suis pas folle.
même si ce que je vais raconter semble tout droit sorti d'un délire de drogué.